7 milliards de voisins. Avec Emmanuel Bastide, pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue 7 milliards de voisins et de voisines. Aujourd'hui, une mode éthique et responsable est-elle possible? Avec un grand point d'interrogation. Près de 100 milliards de vêtements sont achetés chaque année, une consommation qui a doublé depuis le début des années 2000. Et ce chiffre devrait encore croître dans les 10 prochaines années, nous dit-on. Il faut 7500 litres d'eau pour produire un jean, 2500 litres pour un t-shirt. Il y a aussi les teintures chimiques, toxiques, les salaires de misère dans les ateliers, en Asie, en Éthiopie, les normes de sécurité insuffisantes. Souvenez-vous, l'effondrement du Rana Plaza en 2013 au Bangladesh avec plus de 1000 morts. L'industrie textile est l'une des plus polluantes au monde, pas de doute. Et depuis le G7 de septembre dernier, de grands groupes, de grandes marques de prêt-à-porter s'engagent à réduire leur impact sur l'environnement. Mais est-ce suffisant? Alors comment produire et acheter plus responsable? Quels sont les pièges du marketing vert? Nous allons discuter de tout cela. Faut-il aussi plus de réglementation à l'échelle des États? Neila Ajaltouni, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole du collectif Éthique sur l'étiquette et vous discutez régulièrement d'ailleurs avec les industries textiles et du prêt-à-porter. D'ailleurs, on en a invité certaines, elles ont refusé, elles ont décliné. Rebecca Alexandre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes créatrice de la jeune marque Au Naturel, qui est une marque de chaussures éco-responsables fabriquée à partir de fibres d'ananas qui se dit le pignatex, c'est
ça ? Exactement,
c'est ça. Et Au Naturel, ça veut dire naturel en créole. J'en profite d'ailleurs pour saluer nos voisins en Haïti, chez qui il est très très tôt, mais vous pouvez toujours aussi nous téléphoner, vous avez tous la parole. Thomas Ebélé, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondateur de Slow We Are, nous sommes lents, c'est un label de confiance de la mode responsable, une plateforme d'information sur laquelle vous recensez aussi les marques qui sont, selon vous, dignes d'être éthiques et responsables. Vous pouvez bien sûr nous appeler, les voisins, dites-nous comment vous achetez vos vêtements et chaussures, est-ce que vous êtes sensible ou pas du tout à ces questions? Est-ce que la mode éthique pourrait avoir des retombées positives sur de petites productions locales? Je parle pour nos voisins sur le continent africain par exemple. Appelez-nous dès maintenant au 33 1 84 22 71 71. C'est aussi le numéro WhatsApp sur lequel vous pouvez nous téléphoner gratuitement. Ne laissez pas de message audio pour le moment, on est en direct et on a envie de discuter de vive voix avec vous. Je vous lis quelques messages écrits qui ont été postés depuis hier. Nathanaël, qui est à Kisangani, en République démocratique du Congo, nous dit « Les vêtements qui viennent d'Asie sont des vêtements qu'on appelle pirates chez nous. Ça veut dire qu'ils ne durent pas longtemps. » Johan est à Port-au-Prince en Haïti. Mes habits viennent de l'étranger. Ce qui est fabriqué en Haïti est trop cher. Et je me demande bien pourquoi il faut tant d'eau pour fabriquer mon jean. Peut-être quelqu'un peut éclairer pourquoi, comment ont été élaborés ces milliers, ces 7500 litres d'eau pour produire un jean.
Notamment le coton. La fibre première, c'est le coton. Et le coton, c'est la fibre la plus gourmande en eau, en pesticides. C'est essentiellement de là que vient toute cette utilisation de coton.
C'est ça. On additionne les litres d'eau qu'il faut pour produire les fibres d'abord et ensuite pour la fabrication.
Et puis la teinture. La teinture demande aussi beaucoup d'eau.
Ouais, ben justement, il y a un teinturier qui nous écrit juste, qui est en teinturier en batik à Cotonou au Bénin. Il dit « Je suis teinturier et je peux imaginer qu'un jean puisse utiliser cette quantité d'eau. Si je compare à ce que j'utilise pour mes créations, je vais essayer de compter les litres d'eau que je consomme pour la teinture et diminuer ma consommation. Et de mon côté, j'achète des vêtements importés puisque les tissus sur les marchés sont aussi tous importés, il faut bien le préciser. L'immense majorité des vêtements aujourd'hui, de toute façon, même s'ils sont fabriqués en Europe, en Amérique ou ailleurs, ce qu'on appelle le sourcing, c'est-à-dire les matières, les textiles, sont presque exclusivement fabriqués en Asie.
Oui, on a un potentiel de ressources en France. La France est le premier producteur de lin au monde. On fait aussi du chanvre, mais les fibres majoritaires aujourd'hui dans une penderie, c'est du synthétique, notamment le polyester. Donc c'est forcément du pétrole, après vient le coton Et ces matières-là, on les trouve pas directement en France, un petit peu en Europe, très très peu en Grèce ou en Turquie. Et après, c'est le continent asiatique ou africain qui nous amène le coton.
Le chanvre, en plus, en France, n'est pas exclusivement utilisé pour l'habillement.
Ah, pas du tout. Hein? C'est même pas du tout les mêmes types de chanvre qu'on utilise pour le vêtement ou pour la médecine.
Kayolo est à Bobo-Dioulasso au Burkina. Il nous dit 80% de mes jeans sont de seconde main et ils peuvent tenir 3 à 4 ans. Le vêtement d'occasion diminue l'impact écologique, hein, vous êtes d'accord. C'est mon père qui m'a fait prendre conscience de l'importance de la qualité, de la façon dont est fabriqué le vêtement et s'il durera dans le temps. Plus grand monde finalement ne sait vérifier quand il achète un vêtement la qualité des coutures, quelle peut être sa durée de vie. Est-ce qu'on est capable d'estimer la durée de vie d'un vêtement quand on l'examine? Quand on le touche.
On est capable surtout quand on a eu un peu d'expérience, c'est-à-dire qu'on a oublié qu'avant la fin des années 90 et le début des années 2000, avant l'arrivée de la fast fashion, de cette mode à bas coût, jetable, on s'est habillé autrement, avec des matières plus solides, plus durables, et c'est comme ça qu'on s'est, même enfin, les moins de 40 ans se sont beaucoup habillés. Donc il y a le lien entre conditions sociales et pollution et qualité et certains, et il y a aussi, en effet, le fait de savoir aujourd'hui ce que doit être un vêtement, quelle solidité il doit avoir, quelle durabilité. Et beaucoup de créateurs travaillent aujourd'hui sur cette durabilité.
Rebecca, Alexandre, vous qui fabriquez maintenant des chaussures, ce n'était pas du tout votre métier à l'origine d'ailleurs.
Non.
Mais vous êtes capable maintenant, quand vous regardez des chaussures, de voir comment elles sont fabriquées, si elles sont de bonne qualité ou pas?
Oui, justement, ouais. Puisque comme j'ai vu toutes les étapes de fabrication, du patronage jusqu'au montage final de la chaussure, on peut voir maintenant, quand moi j'achète, je vois si la chaussure est de qualité ou pas, la manière dont sont formées les coutures, les assemblages, la semelle également. On arrive à constater si le produit est de qualité.
Vous avez un ou deux trucs à nous donner là?
Alors, surtout au niveau de la semelle. Donc, c'est souvent dans la semelle d'usure, la semelle extérieure qui pose pas mal de problèmes. Donc, on a souvent des semelles qui sont collées. Donc, on a une plus grande... plus grand maintien.
L'idéal, il faudrait que ça soit cousu, c'est ça?
Voilà. Ouais. Le cousu, c'est ce qui permet d'avoir une meilleure qualité.
Ce qui coûte plus cher à fabriquer, évidemment. Un dernier message, Mamadou en Guinée nous dit « Les vêtements des friperies polluent aujourd'hui notre environnement, surtout qu'ils sont essentiellement fabriqués à partir des polyesters. » Je rappelle que certains pays sur le continent africain, comme le Rwanda, ont augmenté ses taxes d'importation de vêtements de seconde main pour soutenir la production locale, mais c'est vrai que le continent africain était inondé des rebuts textiles. Alors là-dedans, il y a des vêtements de bonne qualité, d'ailleurs insuffisamment portés par les consommateurs du Nord, mais il n'y a pas que de la bonne qualité.
Un vêtement aujourd'hui, il faut savoir, enfin un consommateur lambda, il consomme deux fois plus de vêtements qu'il y a 15 ans et il l'utilise deux fois moins longtemps. Donc il y a déjà un rapport de 4 en à peine 15 ans. Un vêtement, aujourd'hui,
pourquoi il consomme deux fois plus? On ne marche pas plus, on n'use pas plus ses chaussures. Pourquoi donc?
Le prix. Parce qu'on est sollicité en permanence avec des prix faibles, avec des promos. Et le cerveau reptilien, il acquiert vous achetez quelque chose, vous êtes récompensé de l'achat, ça vous fait plaisir. Mais c'est très éphémère, c'est très instantané.
Il y a le prix, la communication sur le fait que la fast fashion a dit la mode, ce sera plus d'acheter deux fois par an, printemps, été, automne, hiver, mais de changer tous les mois finalement pour être vraiment tendance à être à la mode. Et il y a la qualité, c'est-à-dire qu'un vêtement de certaines marques dont on entend beaucoup qui nous disent H&M, Zara, Primark, je sais qu'au bout de 4 lavages, mon vêtement ne va déteindre ou la fibre ne va pas tenir. Et pour en revenir à l'Afrique, c'est une question essentielle. Dans le vêtement, j'ai envie de dire malheureusement, l'Afrique fait les frais de toutes ces politiques internationales. Ça a été le cas pour les ailes de poulet en Afrique de l'Ouest, c'est le cas pour le riz, c'est-à-dire que la mondialisation a donné tellement de pouvoir aux transnationales que finalement on oublie aussi ce continent qui bien sûr est très important dans la mondialisation et que l'Occident, les grandes sociétés occidentales déversent finalement, en venant concurrencer un marché local, leurs propres rebuts. Et malheureusement, les consommateurs, par manque d'informations, se dédouanent en pensant recycler et donner leurs vêtements. Mais en fait, ils ne savent pas qu'au bout du compte, ils viennent concurrencer même une production locale dans des pays de tradition textile, comme certains pays d'Afrique.
Les Africains, c'est clair, ne sont pas les consommateurs et les pollueurs en matière de textile, il faut bien le rappeler. Mais bien évidemment, vous avez la parole où que vous soyez dans le monde. 33 1 84 22 71 71.
Nombreux.
7 milliards le voisin.
Ouais. 7 milliards le voisin.
Tout le monde est voisin.
Alors, vous nous le disiez, les chiffres donnent le vertige. Notre consommation a plus que doublé depuis les années 2000. On achète plus de vêtements, on les porte moins. C'est la même chose aussi pour les chaussures. Ce secteur en croissance, quand même, si on regarde d'un peu plus près, c'est pas seulement les Occidentaux, entre guillemets, c'est-à-dire les Européens, les Américains, qui consomment plus. Il y a aussi des pays qui, jusqu'à il y a quelques années, accédaient à moins de marchés textiles, quand même, aussi, non Neila et Jaltouni et Thomas Ebele. Cette croissance, elle est tirée par qui aujourd'hui, globalement ?
Je dirais que la croissance, c'est aujourd'hui surtout les marques qui essayent de continuer sur cet ancien modèle. On continue de surproduire. Le problème, bien sûr, de la surconsommation, il est là. Mais si on produisait moins et mieux, il y aurait aussi moins de consommation. Et pour pouvoir continuer à tirer les prix vers le bas, eh ben on surproduit, quitte à avoir effectivement des rebuts, des déchets, des vêtements qui ne seront jamais vendus, jamais portés. Il y a plus de 15% des vêtements qui sont produits, qui ne sont même pas vendus. Donc
où est-ce qu'ils vont, ces vêtements qui ne sont jamais vendus?
Alors, c'est soit des distributeurs, enfin des grossistes qui vont racheter ça à des marques, soit ça va directement à l'incinérateur. Bon, ça fait de l'énergie, mais on aura créé des fibres pour rien, on aura extrait du pétrole pour rien. Aujourd'hui, si on produisait beaucoup moins, parce que c'est 150 milliards de pièces en 2018, 150 milliards de pièces pour 8 milliards d'êtres humains, sachant qu'au final, c'est un marché de, allez, on va dire entre 500 et 800 millions de consommateurs, parce que c'est l'Amérique du Nord, c'est l'Europe, c'est l'Océanie et un peu la Chine. C'est finalement beaucoup de pièces pour un seul consommateur.
Je donnais le chiffre de 100 milliards de vêtements, c'était un chiffre en effet pour 2014, il ne cesse d'augmenter. Ça veut dire quand même qu'aujourd'hui il y a aussi plus de Chinois, plus d'Indiens qui consomment des vêtements, il n'y a pas que les Européens et les Américains,
les Sud-Américains. Oui, il y a eu l'émergence de classes dites moyennes dans ces pays qui aspirent aussi à ce niveau de consommation, mais c'est vrai que c'est un modèle de production créé par les sociétés multinationales et qu'on pourrait consommer autrement, donc c'est aussi des stratégies d'implantation de ces groupes, d'être partout, d'avoir des rues entières en diversifiant leurs marques. Le groupe Inditex a une dizaine de marques, de Massimo Dutti à Bershka, en passant par Zara, en passant par Stradivarius. Donc vous avez des rues entières qui appartiennent aux mêmes patrons de marques et qui ont des stratégies, c'est-à-dire que pour que leur modèle de production à bas coût soit rentable, il faut qu'elles produisent en volume. Donc c'est pour ça aussi qu'on a une telle croissance.
Et du coup, encore un étonnement d'auditeurs, là, vous êtes plusieurs à reposer la question, mais comment 7500 litres d'eau pour la fabrication d'un jean? C'est Marcel qui est à Abomey-Calavi au Bénin qui repose la question. Mais c'est vrai que vous avez tellement expliqué que c'était un modèle massifié, très industrialisé, on pourrait dire que c'est très efficace. Et donc, vous nous le disiez en début d'émission, Thomas Ebele, ça inclut les 7500 litres d'eau pour un jean, la culture du coton.
Oui, la culture.
J'ai un
chiffre même plus élevé. Pour moi, c'est plutôt 11 000 litres. Donc, 11 mètres cubes d'eau qui sont utilisés pour un jean en coton. On va dire 7500, c'est quand on considère tous les jeans, dont les jeans synthétiques qui contiennent jusqu'à 30% d'élastane. Et donc, effectivement, le coton, l'agriculture, et pèse énormément. Faut savoir que le coton, c'est 2,5% des terres arables dans le monde. Il y a moins d'1% qui est en agriculture biologique. Et la problématique, c'est qu'on cultive du coton à des latitudes et dans des pays qui ne sont pas en phase avec la culture du coton. Pourquoi ? Parce qu'on utilise des cotons OGM. On peut faire jusqu'à 4 récoltes par an, alors qu'un coton organique, c'est une récolte par an. Et ben, la mer d'Aral, par exemple, l'Ouzbékistan, aujourd'hui, ben, là, il n'y a plus de mer. Pourquoi ? Parce que tout a été utilisé pour l'irrigation des champs de coton.
Alors, 32 marques ont signé il y a quelques semaines un Fashion Pact, c'est-à-dire un pacte de la mode qui s'engage à réduire leur empreinte carbone. C'était au G7 à Biarritz à la fin du mois d'août.
Neila Jaltouni. 153 marques.
Non, il y avait une trentaine de marques.
32 groupes.
32 groupes,
et je crois 153 marques.
En effet. 32 groupes, et à l'intérieur, effectivement, il y a le groupe comme celui qui possède la Inditech, qui possède la marque Zara, mais d'autres marques. Vous, en tant qu'ONG éthique sur l'étiquette, Neila Jaltouni, qu'est-ce que vous en pensez ? C'est déjà un premier pas ?
Non, on a plutôt envie de dire que c'est un retour en arrière, c'est-à-dire le retour aux années 90 et aux engagements volontaires des transnationales. On a communiqué, nous, sur la question en disant deux choses. D'une part, c'est pas au gouvernement de se dédouaner et de laisser aux grandes sociétés transnationales qui ont tout intérêt à faire perdurer leur modèle, de laisser le soin de s'autoréguler. Ça ne fonctionne pas. 20 ans d'autorégulation dans la mode ont donné le Rana Plaza en 2013, 1138 morts et des victimes qui doivent se battre avec nos ONG pour en plus obtenir réparation. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que c'est complètement illusoire de laisser ces marques, par des initiatives volontaires, penser qu'elles vont pouvoir réussir à changer leur modèle économique parce qu'il est trop rentable. Ce qu'il faut, c'est au contraire qu'on impose des réglementations pour toutes les sociétés transnationales sur la demande, la pression des consommateurs. C'est exactement ce qu'on cherche à faire au collectif éthique sur l'étiquette. On a obtenu un pas considérable en mars 2017 en faisant adopter une législation en France, la loi sur le devoir de vigilance, qui oblige tous les grands groupes, pas uniquement dans le textile, à rendre des comptes, ou plutôt à prévenir les risques de violation des droits fondamentaux, les risques de violation de l'environnement, et qu'on puisse saisir un juge en France pour des impacts commis à l'international.
Y compris quand ça concerne des prestataires, des fournisseurs en cascade de rang 3, 4, 5. Les multinationales sont censées être responsables et au courant des agissements de leurs fournisseurs. C'est bien cela, la loi sur le devoir de vigilance.
C'est tout à fait ça, et la révolution, c'est justement qu'on crée du droit dur, c'est-à-dire qu'on ne dit plus seulement vous avez des codes de conduite qui vous engagent sur la base d'aucun fondement juridique. Désormais, un juge pourra vous contraindre à publier ce plan de vigilance. Et en cas de dommage qu'on n'espère pas, vous allez pouvoir être traduit en justice et les victimes demander réparation.
Ça, c'est une loi française.
Et il faut maintenant, en effet, qu'il y ait une directive européenne et qu'on adopte un traité international. On sort d'une semaine de négociations à l'ONU la semaine dernière autour de ce traité qui s'appelle Multinational et Droits Humains, soutenu par plus de 900 ONG et syndicats dans le monde. C'est un très grand mouvement qui vise avant tout pour nous à ce que, dans la mondialisation, les acteurs qui causent le plus de dégâts, c'est-à-dire les sociétés transnationales, soient redevables au même titre que les citoyens et les États, parce que nous sommes redevables, mais pour l'instant, pas les sociétés transnationales.
Thomas Ebele, des marques qui communiquent pour dire nous prenons des engagements, nous allons produire mieux, c'est-à-dire avec moins d'impact environnemental, et qui, parallèlement, continue de proposer des abonnements pour pouvoir acheter plus de produits sur une année. Je pense à une célèbre marque de basket.
D'équipementier sportif, oui.
C'est compatible ou pas ?
Est-ce qu'on a besoin de changer plusieurs fois de chaussures, de baskets par an ?
Si elles sont trouées.
Je pense que quelqu'un qui a une usure, à part si on est tous des athlètes de haut niveau, c'est pas vraiment une nécessité. Donc là, on est plutôt sur quelque chose qui s'apparente à de la fast fashion que vraiment l'objet initial de la basket. Pour rebondir sur ce que disait Naila, j'étais à la restitution présentée par Naila au mois d'avril de cette année sur les deux ans la première année anniversaire de la mise en application de la loi sur le devoir de vigilance. Il y avait 80 entreprises qui avaient été auditées. Et ce qui a été flagrant, c'est qu'aucune dans le textile n'ait répondu et n'ait élaboré le plan de vigilance à laquelle, normalement, elle est contrainte de répondre.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le secteur de l'habillement du textile, on est encore très en retard, à la différence de l'alimentation, par exemple, qui a beaucoup progressé pour, ne serait-ce que pour informer le consommateur, pour dire voilà comment est fabriqué notre produit, qu'est-ce qu'il y a dedans.
Alors, je peux parler très rapidement d'Héloïse, qui est la cofondatrice de Slow We Are, qui a fait un parallèle industrielle aujourd'hui qu'on fait sur le textile, en 2008-2009, elle a fait une étude sur la consommation responsable dans l'agroalimentaire. Moins de 15% des gens connaissaient le label AB, agriculture biologique. Donc aujourd'hui, on est vraiment dans cette phase. Là, il y avait Elisabeth Laville qui, très récemment, dans un podcast, a dit aujourd'hui, on arrive à ces 10-15% dans la mode. Et c'est un petit peu le chiffre où les choses peuvent basculer. Donc aujourd'hui, vous posez la question dans la rue, 80-90% des gens savent ce que ça veut dire AB, agriculture biologique. Pas dans les détails, bien sûr, sur le cahier des charges, mais on est vraiment à une période charnière et on espère qu'il y ait des transformations profondes qui se fassent sur...
Vous voulez dire sur le vêtement, on n'y est pas du tout.
Alors, pourquoi il y a une grande différence? C'est clairement la réglementation, c'est-à-dire qu'il y a des labels officiels, il y a des obligations de dire quelle est la composition, par exemple, dans l'agroalimentaire qu'on n'a pas dans l'habillement. C'est pour ça qu'il y a autant de...
On a la composition. En France, on a des étiquettes obligatoires sur la composition du produit.
Uniquement sur la composition, mais pas sur le pays de fabrication, pas sur le processus.
Pays de fabrication en France, c'est pas obligé qu'il soit inscrit sur l'étiquette.
Non.
Dans le reste de l'Union européenne?
Non plus.
Aux États-Unis, oui, mais pas dans l'Union européenne.
Les scandales alimentaires, notamment la vache folle, ont poussé et ont permis justement d'obtenir cette pseudo-transparence. Mais dans les produits transformés, on n'y est toujours pas. Donc quand vous avez un produit direct, qui est toujours plus sain aussi d'un point de vue de la santé, vous pouvez avoir des informations. À partir du moment où il y a plusieurs étapes de transformation, et le vêtement est un exemple typique, on sait faire des vêtements depuis plus de 40 000 ans.
Qu'est-ce que c'est que le greenwashing en matière d'habillement, de vêtements, de textiles, de chaussures?
Pour nous, c'est vraiment le fait qu'une entreprise, en fait, ne dit pas ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'elle verdit son discours, c'est-à-dire qu'elle annonce prendre des mesures, ou disons qu'elle a un discours sur la responsabilité d'auto-congratulation, d'auto-labellisation, en disant « nous sommes responsables parce que nous sommes responsables », mais sans que ça se traduise dans les modèles économiques.
Si on prend un produit précis, on prend un t-shirt, ça veut dire quoi un t-shirt qui est greenwashé, qui est lavé vert?
C'est plutôt un t-shirt dont une marque aurait dit « je garantis que ce t-shirt est fabriqué dans des de façon éthique parce qu'elle va l'écrire sur son site web, parce qu'elle a apposé une étiquette sur laquelle elle a écrit « fait dans le respect des êtres humains, ce qui ne correspond à aucun label », mais que dans la pratique, elle continue d'être une marque de fast fashion.
Par exemple, un t-shirt fabriqué en France?
Oui. Alors, fabriquer, en fait, c'est pas le greenwashing, il est distinct du pays. C'est-à-dire qu'on peut très bien produire au Bangladesh, et peut-être que tu pourras dire qu'on peut très bien fabriquer dans d'autres pays. Des marques responsables montent tous les jours, et nous, il y a 4 millions de travailleurs qui dépendent du secteur de l'habillement au Bangladesh. On souhaite que ces travailleurs voient simplement leurs droits à respecter. Donc, la question, c'est plutôt, est-ce que dans son modèle économique, plutôt que de continuer à faire de la fast fashion, faire pression sur les coûts, les délais de production en polluant la planète et en communiquant fortement en disant « I love the planet », ou est-ce que dans son modèle économique, on a décidé à toutes les étapes de minimiser ses impacts sociaux et environnementaux et donc d'aboutir à un vêtement qui réellement n'a pas dégradé la planète et les droits humains?
Vous nous appelez les voisins et les voisines. On va parler effectivement des conditions pour considérer qu'un vêtement est éthique, parce que ça doit prendre en considération de multiples choses. Ndoya nous poste le message suivant de Dakar en disant « Mais tous ces invendus auxquels vous faisiez allusion tout à l'heure, est-ce qu'on ne peut pas les offrir? Le monde est vraiment inégal. » Mais oui, mais ça aussi, c'est le marketing.
La loi sur le gaspillage vestimentaire doit résoudre une partie de ce problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on fait ça en France, mais s'il n'y a pas une législation européenne, on n'en sort pas.
Et vous nous appelez en tout cas pour poser toutes vos questions sur les conditions de production des vêtements que vous portez.
33-1-84-22-71-71. واقف عند الحيط ما بتحرق بتنقد اللي بتغني بتنقد اللي برقص ضابط جمرك بتحسبنا بالآخر بلا ما تسأل أي مشوار بنمرق وإحنا بين حانا ومانا هي ضاعت لحانا صفينا لحالنا وطلعنا بلوش يا بندبك مع بعض يا بندبك ببعض ومنتهم القدر
وين ما في أصابع على 9 مليمتر لعبه الزوني في اصابع فيس تويتر بيض الاعضاء بمد ايد بحطوا ايجر طلعت في جاكوزي كمان فقاع عايش بشبر تلت باللي بيحكم عملوا تلت باللي عملته ما وصلوا تلت باللي وصلته ارمي تنبح ما بتعود لا بتقيم لا بتحط زو بعد في كوفي شو بالاخر بنلتي
كلنا بنفس القاع كلنا في قناع نتلف بالايقاع بعدك واقف هيك ركز على الحيط علي على الغير
كلنا نفس القاع كلنا في قناع نتلف بالايقاع بعدك واقف هيك ركز على الحيط علي على الغير
غير الاسطوانة خلاص تحلح شوي يلا غير الاسطوانة
أول بأول نفهم بعض ممكن نتفق لو كنا
C'est le groupe palestinien DAM chez 7 milliards de voisins. On est en direct sur RFI. Une mode responsable et éthique est-elle possible? Nous en discutons avec nos invités. Neila Jaltouni du collectif Éthique sur l'étiquette. Thomas Ebele de la plateforme du site internet Slow We Are qui recense les marques vertueuses et qui informe aussi les consommateurs. Rebecca Alexandre, alors justement, vous avez la parole. Vous venez du bâtiment travaux publics à l'origine,
oui, hein, voilà.
Rebecca. Et vous êtes reconvertie dans les chaussures. Comment vous en êtes arrivée là et surtout pour fabriquer des chaussures en fibre d'ananas?
Alors moi, j'ai toujours été attirée par le dessin de base. Donc la chaussure, c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié. Je dessinais déjà à côté. Donc j'ai fait un revirement à 360 degrés pour me lancer dans la chaussure. Donc je suis partie à Cholet, j'ai fait une formation justement pour apprendre.
La capitale de la chaussure,
voilà.
En France, même s'il n'y a pas plus beaucoup de chaussures fabriquées en France.
Il y en a très très peu, il reste très très peu d'ateliers à Cholet. Et c'est vrai qu'en France, pour trouver un atelier pour fabriquer des chaussures, c'est pas évident.
Et pourquoi la fibre d'ananas qui, elle, alors, n'est pas produite en France?
Pourquoi la fibre d'ananas? De base, je voulais faire autre chose que ce que j'avais vu. C'est vrai que... actuellement et pendant ma formation, on a utilisé beaucoup de cuir. Donc on sait aujourd'hui comment est produit le cuir. Et on sait qu'on a plus d'un milliard d'animaux qui sont tués pour leur peau. Donc moi, j'avais vraiment envie de faire quelque chose de différent et je recherchais cette alternative textile ou autre justement pour pouvoir produire mes chaussures. Et c'est pendant mes recherches que j'ai découvert la fibre d'ananas, dit le Pinatex.
Ouais. Vous auriez pu vous engager à produire des chaussures en cuir en Éthiopie par exemple et à faire pas mal d'argent.
Alors justement, la passion était avant le profit. Moi, j'ai envie aujourd'hui de produire, mais pas produire en consommation énorme. C'est pas l'objectif. Je pense qu'il est important déjà de faire ce qu'on aime. Mon objectif principal, c'est de produire de produire des produits de qualité. Mais en petite quantité.
La fibre d'ananas, c'est solide, aussi solide que le cuir?
C'est aussi solide que le cuir. Donc, il faut savoir que la fibre d'ananas, c'est une fibre qui est extraite de la sous-récolte de l'ananas. Donc, on enlève la fibre de la feuille et on obtient une matière non tissée, donc qui va être agglomérée ensemble. Et c'est cette matière non tissée qui va permettre de fabriquer une matière assez grande pour réaliser de la chaussure
et
également du
vêtement. Et avec quoi on l'agglomère, cette fibre d'ananas?
Alors c'est à chaud, c'est aggloméré à chaud, donc il y a de l'air chaud qui est renvoyé sur cette fibre et on a du coup les fibres qui sont tissées entre elles, donc de façon différente, pas forcément comme ce qu'on retrouve sur du vêtement, du chêne et du tram, mais là on va avoir vraiment des fibres qui sont agglomérées entre elles. Et
ces matières, vous les achetez où? Vous les procurez où?
Alors on travaille avec Pinatex, donc c'est Pinatex qui a breveté justement la fibre d'ananas, donc qui sont produits en Philippines. Donc ils travaillent avec les communautés agricoles qui travaillaient déjà sur la production fruitière de l'ananas. Et une fois que les fibres sont retirées de la feuille, elles sont envoyées en Espagne.
Et ensuite, ça arrive chez vous,
voilà,
dans votre atelier?
Directement, oui.
À Cholet, c'est là où vous
faites? Non. Justement, on avait fait des recherches pour pouvoir faire de la chaussure à Cholet directement. Mais comme on est, nous, sur des petites quantités, on s'est retrouvé devant plusieurs portes fermées parce que on arrive en tant que petite société.
Et donc, vous produisez où alors?
Alors, on produit au Portugal.
C'est cette société, qu'est-ce que vous avez comme assurance sur la façon dont sont fabriqués ces assemblages, ces tissages de fibres végétales aux Philippines?
Alors, moi personnellement, puisque je suis avec un associé également, j'ai fait pas mal de recherches, j'ai contacté également la marque pour savoir, parce que c'est vrai que pour moi ça a été aussi un étonnement de savoir qu'on pouvait produire de la chaussure avec de la fibre d'ananas. Donc j'ai fait pas mal de recherches et des contacts également pour savoir comment y procéder, de quelle manière y procéder, comment y travailler avec les communautés agricoles. Donc j'ai pas mal d'échanges qui ont été faits et de documents également liés à la marque qui m'ont été envoyés pour avoir un suivi de la manière dont les choses étaient réellement faites.
À l'arrivée, ce sont des chaussures dont les prix tournent autour de une centaine d'euros.
C'est ça.
Thomas Ebele du site Slow Wear, qu'est-ce que ça vous inspire des chaussures en fibre d'ananas?
Je suis un petit peu plus partagé, non pas sur le projet que je considère comme étant... enfin, tous les projets qui sont souvent porteurs, qui utilisent du pignatex ou d'autres alternatives au cuir, elles ont vraiment cette volonté de changer les choses. Là où je suis un peu plus partagé, c'est que nous, on avait commencé un dossier de fond sur le pignatex et sur Orange Fiber, etc., toutes ces alternatives au cuir. Et on s'est retrouvé face à des portes qui se fermaient un petit peu les unes derrière les autres quand on voulait en savoir un peu plus sur les procédés de fabrication, sur les conditions dans lesquelles les fruits étaient cultivés, les gens qui récoltent ça, comment on défibre, comment sont utiliser les eaux qui permettent...
Oui, vous remontez complètement à la source, voilà. Donc évidemment...
Et donc ça a été... on s'est retrouvé face à des portes qui se fermaient, donc aujourd'hui moi j'ai
une
pas la garantie...
Une relative opacité, c'est ça.
Voilà, donc pour quelqu'un qui cherche à être transparent, aujourd'hui moi la problématique que j'ai c'est de se dire, on voit le côté green, le côté c'est bien, on transforme un déchet en une nouvelle ressource, ce qui est très bien, c'est l'économie circulaire. Mais est-ce que le problème, c'est pas peut-être qu'on surproduit de l'ananas, qu'on surproduit du jus d'orange, jette des hectolitres.
La production était déjà existante.
Bien sûr, mais on a. Bien sûr,
mais on a. Mais là, vous voulez refaire le monde, en fait.
C'est, aujourd'hui, quand on dit on surproduit, quand on fait 150 milliards de pièces. C'est nos grands-parents n'avaient pas besoin de ça, ils c'était pas des hommes des bois, ils étaient habillés comme tout le monde. Donc aujourd'hui, l'industrie agroalimentaire,
quand vous parlez de la surproduction alimentaire, ouais, qu'on ne pourrait pas tabler sur cette surproduction alimentaire pour fabriquer des chaussures, mais là vous remettez tout en cause.
Bien sûr, mais c'est le côté holistique que nous on a toujours voulu mettre en avant.
Mais alors, comment vous choisissez de répertorier des marques sur votre site là, parce que
nous on les audite. Nous, ce qui est important, c'est la démarche. On ne labellise pas des produits, on labellise une démarche. À partir du moment, bien sûr, la matière rentre en compte. On préfère privilégier des matières naturelles, fibres naturelles, qui plus est biologiques. Mais ça n'empêche pas qu'on a des marques qui utilisent du polyester recyclé, qui est des marques qui utilisent des alternatives aussi au cuir.
Et là, vous pourriez aussi dire, ah bah oui, mais c'est parce qu'on produit trop de plastique, donc c'est pas une bonne démarche.
Bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, je préfère valoriser quelqu'un qui connaît sa chaîne de valeur, qui essaye de pousser ses fournisseurs à faire mieux. On avait une marque qui est toujours labellisée, qui à l'origine n'était pas en mesure d'utiliser du Tencel, donc de la viscose responsable, parce qu'elle a une finesse au niveau de l'impression qui était non atteignable il y a encore 2 ou 3 ans. Finalement, en parlant de cette problématique-là, qui est d'autres créateurs qui aient cette même problématique-là, ça a poussé le fournisseur à changer les choses. Donc toutes ces marques qui se lancent aujourd'hui sont des acteurs du changement et permettent de modifier aussi le rapport de force et de l'industrie.
Rebecca Alexandre, qu'est-ce que vous en pensez ?
Oui, moi je pense que après c'est...
Sur le fond, vous êtes d'accord, sur les détails, pas complètement.
Voilà, quand on parle de... Enfin, la production pour moi, elle est propre, elle était déjà là. Les feuilles qui sont utilisées, généralement, étaient utilisées en tant que déchets, c'était
bien
jeté.
Sûr.
Donc là, c'est réutilisé. Et
mais on, de... là où je voulais en venir, c'est que justement, on surproduit de l'ananas. Il y a des ananas qui ne seront jamais mangés ou qui ne seront jamais bu parce que finalement, on a rasé aussi aux Philippines des forêts primaires pour les transformer en champs d'ananas. C'est pareil pour les bananes, c'est pareil pour le cuir. Le problème, c'est la surproduction. On arrête de faire de l'élevage intensif, que ce soit en termes d'arboricole ou d'élevage, et la terre se portera déjà mieux. Il y aura moins d'eutrophisation de l'eau.
On a vu que les labels de café, de chocolat équitable, puisque l'agroalimentaire, vous le disiez, a quand même une belle longueur d'avance par rapport aux textiles et aux chaussures, que ces labels... était quand même assez décevant, avec une histoire complètement fausse qui est racontée sur l'emballage de la tablette de chocolat, où on voit des petits producteurs qui, en fait, sont exploités par des coopératives beaucoup plus importantes. Donc, c'est extrêmement complexe.
L'agroalimentaire, si on le voit du point de vue de l'industriel, qu'est-ce qu'il a quand il produit ? Il a un déchet. Il est responsable de traiter ses déchets. Finalement, quand il arrive à transformer un déchet en une ressource qu'il arrive à valoriser, qu'il arrive à vendre, c'est tout bénef pour lui. Plutôt que de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour réduire mon impact ? Comment est-ce que je peux faire aussi que les gens qui travaillent là-dedans, dans les champs, puissent être mieux rémunérés ?
On le disait au début de l'émission, Naïla Jaltouni, on consomme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de vêtements et de chaussures qu'il y a 20 ans. Est-ce qu'il y a à l'heure actuelle des marques qui tiennent ce discours marketing à leurs clients ? Achetez moins, achetez un peu plus cher, mais achetez moins de nos produits.
Alors, ça dépend de quelle marque on parle. Il y a très clairement, poussé par la société civile, l'attention médiatique, les scandales, les violations que l'on documente tous les jours, des tentatives de certaines marques intermédiaires, je dirais, de faire partie de ceux qui vont sensibiliser les citoyens, sans complètement changer leur modèle. Peut-être aussi, je pense, pour certaines, se disent que j'ai beau dire « réparer vos vêtements », je ne vais pas en vendre moins. Je pense aux petites marques intermédiaires. Et puis, il y a toutes celles, les grosses, les énormes, qui communiquent beaucoup, dont on a déjà parlé, les H&M, les Primark, les Zara communiquent moins, mais qui produisent tellement en masse qu'elles sont le cœur du problème. Et elles auront beau, elles n'ont pas vraiment ce discours, en revanche, elles mettent tellement d'efforts à dire les petites mesures qu'elles font sans jamais toucher à leur modèle, c'est-à-dire est-ce qu'on accepte au niveau des décisionnaires de repenser la question de la fast fashion, de repenser aujourd'hui, H&M nous dit, nous ne sommes pas une marque de fast fashion, nous sommes une marque durable, responsable à petit prix. Ça n'a aucun sens, on ne peut pas réécrire l'histoire de sa marque. On n'a pas le droit. Enfin, malheureusement, on a le droit. Sauf que les consommateurs ne sont pas dupes et on voit bien que la production de vêtements
mais
ne baisse
économiquement,
pas.
Économiquement, si une marque n'est pas en croissance, elle est en train de mourir, non ? J'imagine que même pour vous, Rebecca Alexandre, c'est le cas. Vous ne pouvez pas dire à vos clients « Achetez seulement un seul produit, il va durer tellement longtemps que vous n'avez pas besoin d'en acheter d'autres. »
Alors, nous, l'objectif, c'est de faire déjà des petites quantités. On est parti sur, on fera des petites quantités et on vendra de manière unique. Donc on a à peu près 200 paires. Les 200 paires sont sur notre site et une fois que les 200 paires sont vendues, elles sont vendues, on ne reproduit pas. On va refaire on va reproposer d'autres collections, mais très peu de collections dans l'année. C'est justement le plus important pour moi, c'était vraiment de pouvoir faire déjà ce que j'aime et de le faire bien et de le faire et d'avoir des produits en petite quantité.
Mais cette marque, elle vient de démarrer.
Est-ce que
vous avez l'espoir d'être rentable ?
Alors oui, bien sûr, il faut qu'on soit rentable. Puisque c'est le point d'une entreprise, être rentable. Mais on est quand même sur l'envie de rester sur des petites quantités, de proposer des modèles uniques.
Vous nous appelez au 33 1 84 22 71 71. Si vous souhaitez questionner nos invités, 93% des Français déclarent en 2018 qu'ils tentent d'allonger la durée de vie de leurs produits. 91% 60% disent qu'ils font réparer ou retoucher leurs vêtements. 62% effectuent des achats d'occasion. Alors finalement, aujourd'hui, autour de la planète, qui est prêt à s'intéresser à la durabilité, à l'éthique des vêtements? Est-ce qu'on court après un mirage ou pas? Est-ce que les choses sont en train de changer dans les mentalités? On en discute avec vous dans quelques instants. Bandou Intalé, c'est chez 7 milliards de voisins, on est en direct et on s'interroge sur cette mode éthique, durable, responsable. Est-elle possible? On voit bien, vous nous le disiez, Neila Jaltouni du collectif Éthique sur l'étiquette et Thomas Ebélé de la plateforme Slow We Are et Rebecca Alexandre avec ce projet qui existe, hein, avec ce site internet qui commercialise des chaussures en fibre d'ananas. On a quand même l'impression que là, vous touchez un public qui est ultra, ultra, ultra minoritaire sur la planète. Comment on explique à l'heure actuelle aux jeunes Chinois dont les grands-parents ont vécu le communisme que la surconsommation de mode, c'est pas bon pour l'environnement? Est-ce que réellement aujourd'hui vous êtes lucide sur les mentalités des consommateurs partout dans le monde, Neila Jaltouni?
J'ai envie de dire oui, évidemment qu'on manque d'informations et que, en tant qu'ONG française, on n'a pas accès à des analyses de comportement. Mais je dis oui dans le sens où notre cible à nous, elle n'est pas tant celle du geste individuel du consommateur, de celle de la responsabilisation des sociétés transnationales qui continuent à imposer ce modèle. Effectivement, mais sans aller même en Chine, vous avez en Europe de l'Est des pays qui sont entrés de plein pied en effet dans le capitalisme, qui de pays producteurs de vêtements sont devenus des pays consommateurs. On le sait notamment parce que nous faisons partie d'un réseau international qui s'appelle Clean Clothes Campaign, une espèce de multinationale de la défense des droits humains au travail. Et on voit ces difficultés. Pourquoi ne pas avoir accès à... Donc la question, c'est pas... Ça rejoint un peu votre question aussi sur le modèle. Bien sûr qu'il faut croître pour une marque, mais on peut croître autrement qu'en dégradant la planète et les droits sociaux, parce que c'est croître à court terme, ça. À long terme, c'est s'effondrer et c'est entraîner des dégâts qui vont être réversibles. Donc l'idée, c'est de dire, même si ce modèle de fast fashion, d'explosion, de production est rentable pour vous, transnationales, on va vous obliger à ne plus uniquement pressuriser, parce qu'en Chine, c'est aussi un pays producteur. Alors les salaires sont plus élevés désormais, on arrive tout à fait à avoir des salaires décents en Chine, mais c'est pas le cas au Bangladesh, c'est pas le cas.
Depuis le Rana Donc Plaza, ça n'a pas beaucoup changé au Bangladesh, les salaires et les conditions de sécurité depuis l'effondrement de l'immeuble.
Les conditions de sécurité font partie des avancées qui ont été obtenues de haute lutte et puis à l'issue de ce drame, notamment parce qu'un million de signataires dans le monde ont signé une pétition que nous avions lancée avec d'autres réseaux pour qu'on oblige ces marques typiquement à signer un accord contraignant qui les oblige à sécuriser les usines sous peine d'amende. Donc ça a fonctionné. Les salaires, en fait, les évolutions ont lieu rapidement après cette catastrophe créée par les humains, comme disait, donc c'est pas une catastrophe industrielle, elle est créée par les hommes, comme disait une responsable bangladaise de défense des droits des travailleurs.
Oui, c'était une catastrophe facilement évitable, c'est ce que vous voulez
absolument
dire.
Absolument, et anticipable.
C'est-à-dire nous avions déjà documenté plus de 700 morts depuis 2005 dans des effondrements d'usines ou des incendies d'usines au Bangladesh parce que c'est une industrie qui a cru sans qu'on sécurise les usines.
Ce nouveau secteur qui se développe quand même assez vite d'entreprises numériques, de start-up, de plateformes de prêts, de vêtements pour éviter d'acheter, de marchés de seconde main, est-ce que c'est un bon signe ou pas, Thomas Ebele?
Je pense oui, parce que ça va remettre forcément en question aussi le modèle des marques dans le modèle de la production. Et on voit déjà qu'il y a des marques qui sont productrices et qui proposent aussi des services de location. Je pense à Bocage, par exemple, une marque française.
De chaussures.
Oui, de chaussures. Et donc, c'est aussi, on passe d'une économie du j'achète et je possède à quelque chose plus qui est tourné vers l'usage. C'est pareil avec tout ce qui va être mis à disposition, mis en location, on le voit dans les transports. Après, il y a toujours débat entre la voiture et les trottinettes et les vélos. Mais le vêtement est aussi, les chaussures sont aussi en train de prendre ce tournant.
Alors aujourd'hui, pour conclure, il faut plus de réglementation, plus d'offres éthiques et responsables.
Il faut plus de réglementations qui permettent d'enrayer un modèle qui est nécessairement prédateur. Et malheureusement, les petites initiatives qui se développent sont sans commune mesure avec cette production de masse. Donc les réglementations sont possibles. Ça pose la question de la répartition de la valeur dans tous les domaines. J'ai envie de dire, est-ce qu'on continue à rémunérer les actionnaires pour un modèle économique florissant de fast fashion ou est-ce qu'on accepte en effet de les rendre responsables de ces dommages et environnementaux? Et l'autre levier, je dirais, de cette réglementation, c'est la pression citoyenne. Et nécessairement, si Bocage se met à la location, s'il y a une telle communication, c'est que le bruit des réseaux sociaux, le bruit de nos interpellations, le bruit de nos interpellations des pouvoirs publics contribue à changer le modèle.
Une toute petite cible quand même, rappelons-le, de gens qui sont préoccupés par ces questions, mais qui font effectivement du bruit sur les réseaux sociaux et qui
Pardon,
ont un certain...
Pardon, pas que ce n'est pas forcément les acheteurs qui font pression. Ouais. Et
les consommateurs, vous voulez dire?
En général, pas les consommateurs forcément qui ont les moyens, je dirais, d'investir dans des marques responsables ou qui ont accès tout simplement à l'info, à la connaissance, au lieu, c'est l'ensemble des citoyens, dire que l'action citoyenne est plus importante que l'acte d'achat.
Thomas Ebele, je vais vous laisser le mot de conclusion. Je voudrais que vous nous disiez qu'est-ce que dans un monde rêvé, qu'est-ce que vous aimeriez lire sur une étiquette quand on achète, allez, disons un jean, puisqu'on revient à ce fameux chiffre des 7500 litres d'eau pour fabriquer un jean. Qu'est-ce que vous aimeriez lire sur l'étiquette pour que le consommateur soit vraiment informé de ce qu'il achète?
Alors, outre la composition, l'étiquette de composition qui est obligatoire en France, il y a l'ADEME qui est en train de réfléchir
La maîtrise de l'environnement.
Tout à fait. Qui est en train de réfléchir à une étiquette environnementale. Moi, j'aimerais en plus, j'en ai parlé au Fashion Green Days au mois de mai.
Alors, allons-y. Qu'est-ce que vous aimeriez lire comme info?
Aussi, la partie sociale. Et la traçabilité, la transparence. D'où viennent les matières? Où est-ce que ça a été fabriqué? Où est-ce que ça a été filé, tissé, tricoté, teint, confectionné? L'histoire du vêtement. C'est ça.
Nous, on ajouterait sur le site web les conditions de salaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la transparence ne soit pas la communication. On veut connaître le salaire des ouvriers, le salaire des producteurs de coton et la rémunération de la marque, pourquoi pas.
Ouais. Eh bien, dites donc, ça en fera de l'information. Effectivement, alors qu'à l'heure actuelle, on sait que pour le e-commerce, on n'a même pas le lieu de production.
Non. Mais juste pour ajouter ce que disait Naila, aujourd'hui il y a deux choses qui sont importantes. Il y a les labels qui sont top-down, donc qui sont législatifs et qui mettent du temps parce que mise en application, on le voit avec la loi sur le devoir de vigilance qui a du mal à rentrer en application.
C'est pas un label. Hein.
Oui, c'est pas un label. Non, mais je veux dire, en termes, il y a le côté institutionnel top-down, mais il y a aussi le bottom-up. Slow We Are, c'est tout à fait du bottom-up. C'est aujourd'hui une communauté qui a compris ce qu'on faisait, qu'on auditait, qu'on voulait avoir les meilleurs créateurs qui ont un impact positif. L'ensemble des questions sont corrélées aux objectifs du développement durable et ça a de l'impact.
Le bottom-up, c'est le consommateur de base, mais le consommateur de base chez vous quand même avec un certain pouvoir d'achat parce que c'est forcément des produits plus coûteux, mais si on en achète moins, eh bien il faut faire le calcul. Merci à vous tous, Naila Jaltouni du collectif Éthique sur l'étiquette. Merci à vous, Rebecca Alexandre, donc pour ces chaussures en fibre de bananier au naturel, et merci
ananas.
À vous en fibre d'ananas, pardon, et Thomas Ebele pour la plateforme Slow We Are.
Merci.
Demain, on parlera du travail et de la souffrance. souffrance au travail.